C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
You're watching the news channel for Southern Nevada, KLAS-TV, Channel 8, Las Vegas. Now, live, the 5 o'clock news.
Le 15 mai 1989, Channel 8, KLAS-TV de Las Vegas, au Nevada, une station affiliée au réseau national CBS, diffuse l'entrevue d'un informateur anonyme présenté uniquement sous le prénom fictif de Dennis. L'homme, filmé à contre-jour pour protéger son identité, répond aux questions de George Knapp, l'un des reporters vedettes de la station. Knapp travaille depuis un certain temps à une série de reportages documentant les meilleures preuves à l'appui de l'existence des ovnis. C'est dans ce contexte que le journaliste introduit le témoignage de Dennis. Son histoire est fascinante. En substance, l'informateur prétend avoir brièvement travaillé sur une base militaire secrète où 9 engins d'origine extraterrestre étaient étudiés par un groupe de scientifiques triés sur le volet. Et lui, Dennis, était l'un d'entre eux. La base militaire concernée se trouve sur la rive ouest du lac Groom, un plan d'eau asséché au milieu de la chaîne des monts Papoose, en plein cœur du désert du Nevada. Officiellement, ces installations n'ont pas de nom, mais à l'origine, il s'agissait d'une dépendance de la base de Nellis de l'armée de l'air américaine au nord-est de Las Vegas. Le site militaire qui nous intéresse est aujourd'hui administré par la base d'Andrews en Californie. Faute de nom officiel, les amateurs l'appellent Dreamland, ou plus communément, la Zone 51. Ce nom lui vient des anciennes cartes du Département de l'énergie des États-Unis. Dans les années 1940, alors que le Dr Oppenheimer et son équipe travaillaient au développement de la bombe atomique, le fameux projet Manhattan, des agents étaient chargés de repérer des zones isolées pour procéder aux premiers essais nucléaires. L'une d'elles, la Zone 51, correspondait, et correspond toujours, à un espace désertique situé à 2 heures de route de toute agglomération importante. Un endroit éloigné des regards indiscrets. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'US Air Force, en collaboration avec la CIA et le géant de l'aviation Lockheed, a fait agrandir les installations modestes du lac Groom pour y concevoir une première génération d'avions espions. On y a construit des hangars et la plus longue piste d'atterrissage au monde. C'était l'époque de la guerre froide et les Américains étaient soucieux de connaître tous les secrets de leurs rivaux soviétiques. Cette connaissance passait par le développement d'avions espions. C'est donc à l'ombre des hangars de la Zone 51 que les militaires ont créé leur premier appareil, le U-2. D'autres ont suivi. Le A-12 Oxcart, le SR-71 Blackbird et les avions de la technologie furtive, comme le chasseur F-117 et le bombardier B-2. Ces dernières années, la base est devenue le principal centre de développement en avionique pour la technologie des drones et autres véhicules sans pilote, les UAV, pour reprendre l'appellation anglaise « Unmanned Aerial Vehicle », comme le RQ-170 Sentinel. Lorsque, devant les caméras, Dennis évoque ses étranges activités dans la Zone 51, l'endroit n'est connu que d'une poignée d'amateurs. La base a déjà fait l'objet de rares articles dans des magazines spécialisés en aviation ou dans des tabloïdes. On l'a même évoqué dans une émission sur les ovnis. Elle n'a toutefois pas soulevé de grandes passions. On a notamment rapporté que des ingénieurs y étudiaient des appareils étrangers, comme des chasseurs MiG de l'armée rouge tombés aux mains des militaires américains. Les révélations de Dennis changent la donne et suscitent un intérêt immédiat. Le 10 novembre 1989, Dennis accepte de donner une nouvelle entrevue, cette fois à visage découvert. Il s'appelle en réalité Robert Scott Lazar. Il est né le 26 janvier 1959 à Coral Gables, en Floride. Il a toutefois grandi auprès de ses parents adoptifs à Long Island, où il a fait ses études secondaires. Au milieu des années 1970, la famille a déménagé dans le sud de la Californie, où Robert a suivi des cours d'électronique au Pierce Junior College. Dans cette entrevue et dans celles qui vont suivre, Lazar prétend également être diplômé en physique et en électronique du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, et du California Institute of Technology, la Caltech, les deux plus prestigieuses institutions d'enseignement technologique aux États-Unis. Il aurait même travaillé au prestigieux laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, administré par le département de l'énergie. Son histoire est fantastique. Il raconte qu'en 1988, désireux de reprendre des activités de physicien après un intermède comme propriétaire d'un commerce de photographie à Las Vegas, il a envoyé son CV à diverses entreprises et laboratoires prestigieux. Rapidement contacté par Egerton, Gammerhausen et Greer, EG&G, une firme de génie-conseil, Lazar aurait été embauché comme chef ingénieur pour un travail top secret lié à des systèmes de propulsion. Quelques jours plus tard, en compagnie d'un superviseur, Dennis Mariani, Lazar aurait pris un avion neutralisé à destination du lac Groom. Sur place, on l'aurait fait monter dans un autobus, dont les fenêtres étaient masquées, pour le conduire 20 km plus au sud, au lac Papoose, sur l'autre versant de la chaîne des monts Papoose. C'est là qu'il aurait fait face à l'incroyable. En mettant pied à terre, raconte le physicien, il a noté plusieurs hangars creusés à même la montagne. Il y avait là un véhicule en forme de soucoupe d'au moins 10 mètres de diamètre, portant sur son flanc un drapeau américain. En voyant l'emblème, Lazar a conclu que c'était sans doute l'explication des mystérieuses apparitions de soucoupes volantes, de simples aéronefs américains en forme de disque. En voyant l'engin, il a pu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait là que 3 fauteuils. Lazar a été surpris par leur petite taille. On aurait dit des meubles d'enfant. Il a ensuite été escorté, toujours selon ses confidences, dans des locaux souterrains où, après un bref examen médical, Dennis Mariani lui a demandé de prendre connaissance d'une poignée de documents portant la mention « Top secret ». Ces rapports détaillaient une collaboration entre des extraterrestres venus d'une planète gravitant autour de Zeta Reticuli, une étoile binaire située à quelques 39 années-lumière de la Terre. Ces créatures, des petits gris classiques de la science-fiction, baptisés « The Kids », les enfants, auraient longtemps entretenu une collaboration avec les militaires. Toutefois, en 1979, les choses se seraient envenimées, mettant fin à ces échanges. L'engin, vu de près par Lazar, était l'un des 9 véhicules extraterrestres récupérés depuis 1947 par l'US Air Force. Entre décembre 1988 et avril 1989, Lazar aurait fait de la rétro-ingénierie sur l'un de ses engins, celui vu de près le jour de son arrivée. La rétro-ingénierie consiste à démonter des objets pour en comprendre leur fonctionnement et évaluer la possibilité d'adapter cette technologie à des engins domestiques, militaires ou civils. À des intervalles irréguliers, Lazar se rendait sur un aéroport de Las Vegas où un avion l'amenait au lac Groome et, de là, aux installations du lac Papoose, baptisé secteur 4 ou simplement S4. Durant son affectation, Lazar aurait découvert que ces engins extraterrestres étaient propulsés par un curieux carburant, l'élément 115. Au moment de ses confidences, le tableau périodique ne comptait que 112 éléments. À une occasion, le physicien aurait même assisté à un vol d'essai de l'une de ses soucoupes volantes. Au printemps de 1989, Lazar a profité d'un de ses congés pour conduire des amis à une vingtaine de kilomètres du lac Groome, hors de la zone de restriction civile, d'où ils ont assisté aux manœuvres aériennes de lueurs nocturnes. Erreur de jugement. Sur le chemin du retour, le physicien et ses compagnons ont été interceptés par des policiers qui en ont informé les autorités de la base. Lazar aurait même été contacté par Dennis Mariani, qui lui aurait fait comprendre qu'il était maintenant sur la touche. Le physicien n'a jamais été officiellement limogé, mais il a été écarté du projet. C'est en substance l'histoire que Robert Bob Lazar raconte à partir du printemps 1989. Son récit fait sensation. La zone 51, jusque-là à peu près inconnue, passe littéralement dans la culture populaire. Sa référence est récupérée aussi bien dans la populaire série X-Files, aux frontières du réel, que dans des films comme Independence Day. De son côté, Lazar multiplie les apparitions médiatiques, détaillant les installations de la base et ses propres travaux de rétro-ingénierie. En 1991, il commercialise The Lazar Tape, an excerpt from the Government Bible, une vidéo de 45 minutes dans laquelle il détaille son aventure dans le mystérieux secteur 4. Sur le terrain, des curieux se rendent dans les montagnes qui dominent la base du lac Groome, espérant, eux aussi, être témoins de l'apparition des mystérieuses soucoupes volantes. Ce tourisme inattendu agace tellement les autorités militaires qu'en 1995, l'armée élargit de 3972 acres son périmètre de sécurité, englobant toutes les montagnes autour du lac. Aujourd'hui, il est impossible d'approcher à moins de 15 km de la base. Pendant un temps, Lazar reste une figure populaire. Il participe à des conférences et à d'autres activités ufologiques consacrées aux ovnis. Il décroche même une émission de radio éphémère, 5 diffusions seulement, sur les ondes d'une station locale de Las Vegas.
Bob Lazar, UFO Line.
En 1994, il s'associe à la Tester Corporation, spécialisée dans les maquettes et les modèles réduits, pour commercialiser une reproduction de la soucoupe sur laquelle il prétend avoir travaillé dans le secteur 4. Une fois l'excitation du moment passé, Lazar s'efface peu à peu de la scène ufologique. Au fil des années, ses apparitions se font plus sporadiques. S'il quitte le milieu des ovnis, il n'en reste pas moins dans le collimateur des médias. En 1990, il est accusé de proxénétisme et condamné à 150 heures de travaux communautaires. En 2006, sa femme et lui sont accusés d'avoir utilisé le service postal pour envoyer des substances dangereuses d'un état à un autre. Sa compagnie, United Nuclear, spécialisée dans la vente de produits minéraux et d'autres composants chimiques, est condamnée à 7 500 $ d'amende. En 2018, Bob Lazar, qui a quitté les néons clinquants de Las Vegas pour la petite ville de Lanesburg, au Michigan, sort d'un silence de 25 ans et participe à un nouveau documentaire
Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers,
réalisé par Jeremy Corbell, un habitué, des documentaires sur les ovnis. L'année suivante, il publie Dreamland, une autobiographie principalement consacrée à ses expériences dans la zone 51 et le secteur 4. Bob Lazar et la zone 51. Dossier 1505-1989. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis presque 50 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Il est parfois extraordinaire de voir comment, pour défendre leurs fantasmes, certains croyants capitalisent sur des détails insignifiants tout en ignorant des preuves indéniables. Cet aveuglement volontaire a permis à Bob Lazar de survivre dans l'univers des ovnis. Dès ses premières déclarations, il s'est présenté comme un double diplômé en physique et en électronique du MIT et du Caltech. Il a également soutenu être membre d'associations professionnelles et avoir travaillé sur un accélérateur de particules au prestigieux laboratoire national du département de l'énergie à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ce parcours universitaire et professionnel est le premier talon d'Achille de Bob Lazar. Plusieurs enquêteurs, dont l'ufologue Stanton Friedman, se sont penchés sur ces allégations. Leur découverte, ou leur non-découverte, ont ébranlé le récit de Lazar. Comme je l'ai déjà souligné, on peut suivre pas à pas le cursus scolaire de Lazar, de l'école secondaire de W. Trisper Clark de Westbury à Long Island, dans l'État de New York, à sa formation au Pierce Junior College de Los Angeles, en Californie. C'est à partir de là que les choses s'embrouillent. Outre sa formation collégiale, Lazar soutient détenir des diplômes du MIT et du Caltech. Hélas, toutes les recherches en ce sens ont fait chou blanc. Ni l'une ni l'autre de ces institutions ne possède quelques dossiers, inscriptions ou thèses au nom de Robert Scott Lazar. Le controversé physicien n'apparaît pas non plus dans les livres annuels des diplômés. Troublant. Devant cette anomalie, il affirme être victime d'un invraisemblable complot visant à effacer son passé. Ridicule. Imaginez des agents retraçant tous les livres des diplômés remis aux étudiants du MIT et du Caltech pour aller en catimini oblitérer la photo de Robert Lazar, et ce, sans laisser la moindre trace. Vraiment? Il n'y a pas que son passé qui a été effacé, sa mémoire aussi. Lorsqu'on lui demande de donner des noms d'étudiants ou de professeurs qui pourraient attester son parcours, il en est incapable. À une occasion, questionné à ce propos à l'issue d'une conférence, Lazar a laissé tomber un nom.
Je pense que Bill Doxler, au département de physique du Caltech, doit se souvenir de moi.
En effet, le Dr. Doxler se rappelle vaguement Bob Lazar. Le problème, c'est qu'il n'a jamais enseigné au Caltech, mais au Pierce Junior College, où Lazar a suivi des cours d'électronique à la fin des années 1970. À ce jour, 35 ans après ses révélations initiales, aucun étudiant, ni professeur, n'est jamais sorti de l'ombre pour confirmer avoir fréquenté Lazar au sein de l'une ou l'autre de ces institutions. Il faut croire qu'ils ont été visités par des hommes en noir équipé de stylos flasheurs effaceurs de mémoire. Par ailleurs, quand on demande à Lazar de produire ses diplômes, il explique candidement les avoir perdus lors d'un déménagement. L'ufologue Stanton Friedman, qui s'est beaucoup intéressé au cursus de Robert Lazar, a découvert que ce dernier a obtenu son diplôme d'études collégiales de l'État de New York en août 1976. Lazar se positionnait au 261e rang d'une cuvée de 369, soit dans le dernier tiers. Une position très insuffisante pour être admis au MIT ou au Caltech. Jeremy Corbell prétend avoir rencontré d'anciens étudiants qui ont connu Lazar sur les bancs du MIT ou du Caltech. Mais, pour des raisons nébuleuses, il a toujours refusé de communiquer leur nom. Même embrouille du côté de son emploi au Laboratoire national de Los Alamos. Ce complexe est gigantesque. C'est une ville dans la ville. Il a été créé en 1943 par le département de l'énergie pour centraliser les travaux top secrets du projet Manhattan, la bombe atomique. Le site n'a depuis cessé de prendre de l'expansion. Géré par l'Université de Californie et toujours administré par le département de l'énergie, il est aujourd'hui le plus gros employeur du nord de l'État du Nouveau-Mexique. On y compte environ 10 000 employés et plus de 3 000 sous-contractants. Lorsque Bob Lazar a débarqué dans l'univers des OVNI en 1989, il prétendait avoir travaillé comme physicien au Laboratoire national de Los Alamos, une référence prestigieuse. Les vérifications apportent toutefois un bémol à ce lustre. Travailler au Laboratoire national de Los Alamos ne signifie pas forcément travailler pour le laboratoire. Comme pour ses invisibles diplômes du MIT et du Caltech, Lazar n'a jamais apporté la moindre preuve de ses fonctions au sein du laboratoire. Il n'existe aucune preuve d'une embauche directe entre le laboratoire et Bob Lazar. En parcourant les divers répertoires, des enquêteurs ont toutefois trouvé le nom de Lazar inscrit dans un annuaire de sous-contractants. Son nom est suivi des lettres K et M pour Kirkmeyer Corporation. À la fin des années 1980, Kirkmeyer fournissait au laboratoire des employés pour la saisie de données, des machinistes et des techniciens en électronique. Elle n'a jamais fourni de physicien au laboratoire. Lazar a suivi une formation en électronique au Pierce Junior College et c'est à ce titre qu'il a été embauché par Kirkmeyer. Son boulot consistait à réparer des appareils comme des compteurs Geiger. Des gens qui ont travaillé avec lui à cette époque se rappellent d'ailleurs qu'il était plutôt habile pour résoudre les problèmes relatifs à son secteur. Plutôt que d'accepter la triste réalité d'un fabulateur, les défenseurs de Lazar préfèrent s'en remettre à un article paru le 27 juin 1982 dans le Los Alamos Monitor. À l'époque, Lazar avait adapté sur sa Honda Compact une turbine lui permettant d'atteindre, disait-il, des pointes de 350 km à l'heure. Il se baladait dans les rues de Los Alamos au volant de cet engin qui faisait autant de bruit qu'un chasseur à réaction. Ses excentricités lui ont valu un article dans le journal local. Lazar y est décrit comme un physicien travaillant au Laboratoire national de Los Alamos. Objectivement, cela ne signifie pas grand-chose. Dans ce genre de faits divers, les journalistes ne font souvent que répéter aveuglément l'information qui leur est transmise. Si Lazar avait dit qu'il était astronaute à la NASA, le journaliste Terry Englund l'aurait sans doute écrit sans le vérifier. Exhiber cet article pour accréditer les activités de Lazar au Laboratoire national de Los Alamos est caricatural. À ce stade, nous avons un Robert Lazar qui n'a manifestement jamais fréquenté les bancs du MIT ni ceux du Caltech, qui n'est membre d'aucune association professionnelle scientifique et qui a menti sur ses activités au Laboratoire national de Los Alamos. Avec un CV aussi peu reluisant, il y a bien peu de chances qu'il ait été recruté par AT&T, où il n'existe bien entendu aucune preuve de son embauche, pour aller démanteler des soucoupes volantes dans la zone 51. À ce propos, la seule preuve jamais présentée par Lazare au sujet de cet emploi est un relevé du service des impôts pour un salaire encaissé de 958,11 $ et portant l'en-tête du United States Department of Naval Intelligence. Le problème, c'est que cette agence n'existe pas, pas plus que le numéro d'employé. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un document falsifié. Néanmoins, pour bien apprécier les fadaises de Lazare, il faut jouer le jeu encore un moment. L'homme soutient que le hangar à soucoupe volante se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de la base du lac Groom, sur l'autre versant de la chaîne des Monts Papouses, près du lac du même nom, dans le secteur 4, ou simplement S4. Primo, l'endroit est plutôt mal choisi. Dans les années 1950, le lac Papouse a été le théâtre de plusieurs explosions atomiques. Le site présente encore des taux de radioactivité élevés, et cette contamination rend les longues expositions dangereuses. C'est d'ailleurs pourquoi les installations du lac Groom se trouvent sur l'autre versant, la chaîne des Monts Papouses agissant comme barrière. Toute la région du lac Papouses est interdite pour des raisons de sécurité nationale, à cause des infrastructures voisines du lac Groom, mais aussi en raison des taux de radioactivité élevés. Au printemps de 1997, un archéologue amateur, Jerry Freeman, s'est aventuré au lac Papouses pour y rassembler de l'information sur un épisode de la ruée vers l'or. En 1848, du métal précieux avait été découvert en Californie, suscitant un afflux de gens venant de partout aux États-Unis. Des prospecteurs du sud du Nevada auraient emprunté un itinéraire passant par le lac Papouses avant de se perdre et de trouver la mort dans le désert de Mojave, en Californie, d'où le nom de Dead Valley, la vallée de la mort. C'est pour colliger des données sur cet épisode héroïque que Jerry Freeman a défié les restrictions militaires du lac Papouses, où il a passé plus d'une semaine. 4 ans plus tard, il est décédé d'un cancer de la prostate. Sa maladie avait cependant été diagnostiquée avant son aventure au lac Papouses. Durant son séjour, Freeman, qui se trouvait exactement là où Lazare disait avoir fait de la rétro-ingénierie sur des engins extraterrestres, n'a rien vu d'insolite. Aucun hangar dans la montagne, aucun physicien en blouse blanche, et encore moins des militaires en train de faire joujou avec des soucoupes volantes. À l'époque où Lazare a raconté son histoire, en 1989, il n'existait à peu près aucune photographie aérienne de la zone 51. La seule référence était un cliché pris le 17 juillet 1988 par un satellite russe montrant les installations du lac Groom, mais pas le secteur du lac Papouses. Comme personne n'avait accès à l'endroit, Lazare pouvait raconter n'importe quoi. Le monde a bien changé depuis.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, des dizaines d'entreprises possèdent leurs propres satellites et fournissent des services d'imagerie à haute définition à leurs clients. Sur les photographies de la région du lac Papouses, certains clichés offrent une résolution permettant de détailler des objets d'à peine 30 cm. Et que voit-on sur les flancs de la chaîne des Monts Papouses? Rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a aucune route, pas même un sentier qui se rend à cet endroit. S'il y avait là une base souterraine, il devrait bien y avoir quelques indices, ne serait-ce qu'une toilette extérieure pour dissimuler l'entrée des employés. Mais non, rien. Une route inexistante que patrouillent des autobus chimériques pour aller se stationner sur des parkings imaginaires Le temps que les employés fantômes regagnent leur lieu de travail par des portes inexistantes. D'ailleurs, pourquoi se donner le mal de dissimuler ces installations? L'important, ce n'est pas les bâtiments, c'est ce que l'on y fait. Pourquoi les militaires américains auraient-ils investi des millions, voire des milliards, pour dissimuler les installations du secteur 4 et pas celles du lac Groom? Robert Lazar raconte que durant son bref séjour dans le secteur 4, il a consulté des documents attestant que les extraterrestres venaient de Zeta Reticuli, un système solaire distant de 39 années-lumière de la Terre, et que ces visiteurs avaient longtemps entretenu des rapports amicaux avec les hauts dirigeants de l'état-major américain. Apparemment, passé longtemps pour leur apprendre comment fonctionnait leur soucoupe. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à Zeta Reticuli. Le choix de cette étoile binaire n'est pas anodin. Dans l'univers des ovnis, la constellation du Reticuli tient une place à part. Elle est associée à la plus célèbre histoire d'enlèvement extraterrestre, celui du couple Betty et Barney Hill. Les époux racontent qu'en 1961, alors qu'ils traversaient la forêt nationale des White Mountains au New Hampshire, aux États-Unis, ils ont été amenés à bord d'une soucoupe volante où ils ont été soumis à des tests médicaux. D'après Betty Hill, leur ravisseur, des créatures humanoïdes de 1,50 m à la peau grise et aux yeux démesurés, leur auraient fait comprendre qu'ils venaient d'un système solaire lointain, plus tard identifié comme Zeta Reticuli. Depuis la publication du récit des Hill en 1966, cette constellation s'est imposée dans le milieu des ovnis comme l'un des hypothétiques lieux d'origine des extraterrestres. Si le commentaire de Robert Lazar a fait fantasmer les amateurs parce qu'il confirmait en partie la véracité de l'affaire Betty et Barney Hill, les recherches en astrophysique ont éclipsé cette candidature. Nous savons aujourd'hui que l'environnement planétaire dans le voisinage des étoiles Zeta 1 et Zeta 2, ainsi que leur métallicité, rendent très improbable la formation de planètes telluriques comme la Terre, susceptibles d'offrir des conditions propices au développement de la vie organique. S'il y a des planètes qui tournent autour de Zeta 1 et Zeta 2, ce qui est très incertain, ce sont à coup sûr des géantes gazeuses comme le sont Jupiter ou Saturne. Des mondes hostiles et stériles. Bref, les extraterrestres dont parle Bob Lazar n'existent que dans son imagination. Les réticuliens sont à la rue. Ce sont des SDF intergalactiques. Lazar a aussi longuement décrit et dessiné l'appareil sur lequel il aurait fait de la rétro-ingénierie. L'aéronef avait l'aspect de deux soucoupes renversées l'une sur l'autre et surmontées d'un dôme marqué de carrés noirs, comme des fenêtres ou des capteurs. Le dôme était orné d'une petite antenne. Bob Lazar n'a pas cherché bien loin son inspiration. Au début des années 1980, pratiquement 10 ans avant ces révélations, l'artiste peintre Jim Nichols avait illustré les pseudo-rencontres d'outre-espace du contacté suisse Edward Billy Meyer. Ce fumiste se disait en rapport avec des extraterrestres venus des Pléiades, un amas d'étoiles situé à 444 années-lumière de la Terre. Outre son discours déjanté, Meyer s'était démarqué par une collection de photos de soucoupes volantes aussi spectaculaires que truquées. C'est d'ailleurs l'une d'elles qui apparaît sur l'affiche de l'agent Fox Mulder dans les X-Files, titrée « I want to believe ». Pour pallier les quelques vides iconographiques, le pauvre Meyer ne pouvait quand même pas tout photographier. Jim Nichols avait produit une série d'illustrations montrant le contacté en compagnie de la séduisante Sam Jazz. Cette charmante pléiadienne lui rendait visite à bord d'une soucoupe volante de type 2 dans un catalogue de 5 modèles pour reprendre la nomenclature de Meyer. Or, vous l'aurez deviné, L'engin décrit par Bob Lazar et plus tard commercialisé en modèle réduit par la Tester Corporation est une copie conforme de la soucoupe pléadienne de type 2. À moins de croire que les pléadiens et les réticuliens travaillaient sur les mêmes chaînes de montage, il y a fort à parier que Lazar a davantage trouvé son inspiration dans les livres de Meyer qu'au secteur 4. Robert Lazar a raconté que l'engin extraterrestre sur lequel il avait travaillé utilisait comme combustible l'élément 115. Le physicien en aurait même dérobé une petite quantité qu'il n'a jamais produite, bien entendu. À l'époque, c'était une affirmation très exotique. Il faut savoir que tous les éléments chimiques connus sont inscrits dans un tableau périodique, appelé aussi tableau de Mendeleïev, et numérotés en fonction de leur configuration électronique, nombre de protons, de neutrons et d'électrons. En 1989, année où Bob Lazar a évoqué l'élément 115, le tableau périodique s'arrêtait à l'élément 112, le copernicium. Depuis, de nombreux éléments se sont ajoutés. Le registre en compte à présent 118, dont le 115, le moscovium, découvert en 2003 et officiellement joint au tableau en 2016. Pour les partisans de Lazar, cette identification de l'élément 115 avant sa découverte prouve la réalité de ses dires. Rien n'est moins sûr. Tous les 3 ou 4 ans, les physiciens découvrent de nouveaux éléments, surtout depuis la mise en service d'accélérateurs de particules, comme le grand collisionneur de Hadron, à la frontière franco-suisse. Néanmoins, ces éléments, dont le moscovium, sont excessivement instables et ne doivent leur existence qu'aux conditions artificielles et hautement improbables créées dans les accélérateurs de particules. Si le nombre d'éléments enregistrés est maintenant de 118, il est raisonnable d'anticiper l'ajout d'éventuels éléments 119, 120 ou 121. Pas besoin de travailler sur des soucoupes volantes zêta-réticuliennes pour faire ce genre de conjecture. Dans le cas de l'élément 115, la question n'est pas tant de déterminer son nombre atomique que de savoir si la description que Lazar en a faite en 1989 correspond à celle du moscovium. La réponse est non. En fait, le seul point commun entre l'élément 115 de Robert Lazar et le moscovium est leur haut taux de radioactivité. Pour le reste, tout les sépare. Lazar a décrit une matière stable et semblable à des billes de couleur orangée. À l'en croire, une quantité de la taille d'une pièce d'un dollar canadien, nécessaire au fonctionnement de la soucoupe, avait un poids de 223 grammes. Dans les faits, le moscovium, appelé aussi unopentium, est un élément extrêmement instable. Sa durée de vie oscille entre 200 et 400 millisecondes. En réalité, il est beaucoup plus un état intermédiaire dans un processus de transformation que de la matière proprement dite. Son instabilité le réduit rapidement en éléments chimiques moins complexes. C'est un peu comme de l'eau qui bout avant de se transformer en vapeur. Entre l'état liquide et l'état gazeux, il y a un moment où l'eau est entre deux, comme le moscovium. Cet élément est donc trop instable pour offrir quelques bénéfices antigravitationnels. Pas étonnant qu'un physicien réputé, David Morgan, ait qualifié le discours de Bob Lazar d'élucubration. Contrairement aux prétentions de ses partisans, Bob Lazar n'est pas non plus le prophète qui a prédit la découverte de l'élément 115. En mai 1989, des mois avant qu'il évoque cet élément, un article publié dans le périodique Scientific American évoquait la production éventuelle d'éléments lourds grâce aux accélérateurs de particules, dont un possible élément 115. Bien essayé, Bob. En décembre 2018, le documentaire Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, est présenté en grande pompe à Los Angeles. Après une éclipse de presque 30 ans, Bob Lazar reprend du service. Dans cette présentation de 97 minutes, il réitère ses thèses de 1989. Il affirme n'avoir rien à gagner dans cette histoire. C'est pourtant, étrange coïncidence, quelques mois avant la publication de son autobiographie. Le film, réalisé par Jeremy Corbell, est complaisant à souhait. Lazar y est présenté comme un parangon d'honnêteté et comme la victime d'une conspiration sordide. On passe rapidement, très rapidement même, sur ses vides scolaires et sur ses déboires judiciaires. Certaines scènes sont franchement des attrape-nigauds. À un moment donné, Corbell présente à Lazar des photographies montrant un lecteur biométrique mesurant la longueur des doigts. En 1989, Lazar avait décrit ses lecteurs en affirmant qu'ils étaient du type installé dans la zone 51. Tout en exhibant ses clichés, Corbell explique qu'il a fait de longues recherches sans jamais trouver ce genre de lecteur. Puis, coup de chance. Récemment, dit-il, la Nellis Air Force Base, qui a longtemps administré la base de la zone 51, aurait publié des photographies montrant des dispositifs de sécurité en usage dans les années 1980. Or, au nombre de ces appareils se trouvait un scanner comme celui décrit par Lazar en 1989. En voyant ces photos, Lazar semble surpris. Il affiche un air triomphant du genre « Vous voyez, je vous l'avais dit. » De deux choses l'une, ou Jeremy Corbell a mal fait ses recherches, ou toute cette histoire ne sert qu'à rouler dans la farine le spectateur. Le dilecteur biométrique n'est qu'un banal Identimat 2000, un appareil qui, en effet, identifiait ses utilisateurs en mesurant la longueur de leurs doigts. Il n'était cependant pas nécessaire de se rendre au lac Groom pour en voir. À la fin des années 1970, 15 ans avant les révélations de Lazar, ces lecteurs étaient très répandus aux États-Unis. On en trouvait dans des endroits à circulation restreinte, comme les laboratoires, les centres hospitaliers ou les banques. Ce lecteur, décrit à l'époque comme l'avenir des dispositifs de sécurité, avait fait l'objet d'articles dans la presse et dans des magazines spécialisés. L'un de ces Identimat 2000 avait même fait une apparition dans le film « Rencontre du troisième type » à la 45e minute. Faut-il rappeler que le classique de Steven Spielberg est sorti sur les écrans en 1977, 12 ans avant la description de Bob Lazar. Il s'agit, drôle de coïncidence, d'un film sur les ovnis. Même en tourloupe, avec le raid de la police dans le commerce de produits chimiques de Bob Lazar à Lanesburg, au Michigan. Dans son documentaire, Jeremy Corbell raconte qu'en début de tournage, la police municipale et le FBI ont fait une descente dans les locaux de United Nuclear. Il explique que les autorités étaient apparemment à la recherche de renseignements concernant un client de Bob. Devant une procédure aussi banale, interroge Corbell, pourquoi déployer tant d'effectifs? Pourquoi ne pas simplement téléphoner à Bob Lazar? En minimisant la situation, Corbell cherche à mousser sa propre hypothèse complotiste ou à entuber les spectateurs. Et si les policiers étaient à la recherche d'autre chose? Et s'ils espéraient mettre la main sur le mystérieux élément 115? Sinon, pourquoi choisir d'intervenir à ce moment précis? Tout cela sent le complot à plein nez, affirme Corbell. Là encore, le documentaliste prend les spectateurs pour des imbéciles. Le jour de l'intervention, le 19 juillet 2017, les agents ont remis à Lazar un mandat expliquant les motifs de leur présence. Tout y est clairement détaillé, sans ambiguïté. Cette intervention n'était pas qu'une simple recherche d'informations sur un client, mais un complément d'enquête dans une affaire de meurtre. Le 22 décembre 2015, une jeune femme de Houghton, au Michigan, Janet Stirls, 31 ans, s'est présentée à l'hôpital de Rochester, souffrant de nausées et de violentes crampes abdominales. Elle est décédée quelques heures plus tard. L'autopsie a révélé que Mme Stirls avait été empoisonnée au thallium. Ce métal lourd a longtemps été employé dans la fabrication de pesticides. Depuis les années 1960, il a été banni des usages commerciaux et, depuis 1984, il n'est plus produit aux États-Unis. On ne l'utilise plus que pour la fabrication de composantes électroniques et au cours de procédures médicales précises. Il est incolore, inodore et sans goût. Mais il est très toxique, même au contact de la peau. Sa vente est soigneusement contrôlée. Entre de mauvaises mains, le thallium peut se révéler un poison violent, voire une arme terroriste, d'où l'implication du FBI dans ce dossier. En vérifiant l'historique des proches de Mme Stirls, les enquêteurs ont découvert que l'un d'entre eux s'était procuré une petite quantité de thallium chez United Nuclear, le commerce de Bob Lazar, l'une des rares entreprises de l'État autorisées à vendre cette matière. Le seul crime de Lazar est sans doute d'avoir vendu inconsciemment du thallium à un assassin en devenir. Mais en pareilles circonstances, les autorités prennent les choses très au sérieux. Le FBI ne téléphone pas avant et n'envoie pas de faire-part. La façon frivole dont Jeremy Corbell présente cet épisode est d'une malhonnêteté crasse. Robert Scott Lazar est vraisemblablement un fumiste. Pourquoi a-t-il inventé cette histoire? Difficile à dire. Et ce n'est pas le travail des journalistes de savoir pourquoi les mythomanes s'inventent des réalités fantasmées. Il faut croire que ces élucubrations leur servent, que ce soit pour des raisons financières ou psychologiques. Dans le cas de Lazar, je ne m'improviserai pas psychologue. En revanche, je dirais que, contrairement à ce que prétendent ses défenseurs, le bonhomme a largement capitalisé sur son histoire, à commencer par son contrat de commercialisation avec Testor pour sa soucoupe volante. Il suffit de consulter le site en ligne de United Nuclear pour constater qu'il existe une section consacrée exclusivement à des produits dérivés, des t-shirts, des tasses, etc., de la zone 51. Bien sûr, il n'y a rien de répréhensible à vouloir faire de l'argent en exploitant des expériences personnelles. Des astronautes, des héros de guerre et de grands explorateurs l'ont fait. Cela ne signifie pas que Neil Armstrong n'a jamais marché sur la Lune ou que le commandant Cousteau n'a jamais exploré les mers. Toutefois, contrairement aux découvertes de Lazar, la réalité des vols Apollo et les aventures de la Calypso ne font aucun doute. Certes, Lazar n'a pas fait fortune avec ses produits dérivés, peut-être espérait-il en tirer davantage, mais ce n'est pas si mal non plus. Qui plus est, des discussions sont toujours en cours pour une éventuelle adaptation de son histoire au cinéma. Devant ces évidences de supercherie, les partisans de Lazar s'en remettent à un dernier espoir pour sauver l'honneur de leur candidat. La synergologie. C'est-à-dire l'art de décoder le langage corporel non-verbal. Depuis une vingtaine d'années, un engouement s'est manifesté autour de cette pseudo-science. En en croire ses artisans, notre corps réagirait psychologiquement et inconsciemment à notre environnement immédiat. Nos gestes, nos actions, nos attitudes, nos postures seraient autant d'éléments qui traduiraient nos états psychologiques. En s'appuyant sur une espèce de grille d'interprétation, une kyrielle de synergologues se sont penchés sur les réactions non-verbales de Bob Lazar ou cours d'entretien filmé. En fonction des questions posées, il regarde tantôt à droite, tantôt à gauche, il se gratte la joue ou le nez, il cligne des yeux. Sur la foi de ses réactions, beaucoup l'ont trouvé crédible. Mais encore, que valent ses impressions devant l'épais dossier de faits vérifiables et vérifiés, prouvant que Lazare a menti? Strictement rien. Si ce n'est qu'à force de se cantonner dans les mêmes bobards, Lazare a appris à les répéter en regardant ses interlocuteurs droit dans les yeux. Notons aussi que la synergologie n'est pas une science, mais une pseudo-science, comme l'homéopathie ou la parapsychologie. Sans jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut considérer ces interprétations avec énormément de circonspection. À ce jour, il n'existe aucune étude scientifique rigoureuse qui confirme la valeur de la synergologie. Si, au dire de certains, elle peut se révéler un outil intéressant, comme le sont les polygraphes, elle ne saurait d'aucune manière remplacer les preuves matérielles. Si la littérature judiciaire est pleine de coupables qui ont réussi à tromper les polygraphes, dont le tristement célèbre tueur en série Ted Bundy, il y a fort à parier qu'il doit en être de même avec le langage non-verbal. Après son dernier tour de piste, en 2018, avec le documentaire « Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers » de Jeremy Corbell, on aurait pu croire que le rideau était tombé sur Bob Lazar et ses fables. Et non. On n'abandonne pas une si bonne histoire. Quelques bonzes de la soucoupe volanterie aux États-Unis se sont dit que l'heure d'un reboot avait sonné. À l'été de 2023, devant un petit groupe de 6 représentants du Congrès américain, 5 républicains et une démocrate, un ancien militaire, David Grosh, est venu témoigner lors d'audiences sur les ovnis. Il a raconté qu'il était au courant de programmes secrets de rétro-ingénierie sur des engins d'origine non humaine, et ce depuis des décennies. Grosh a ajouté que l'armée américaine aurait récupéré au fil des ans plusieurs de ces engins, ainsi que leurs pilotes, eux aussi bien entendu, d'origine non humaine. Et lorsque les élus lui ont demandé si lui, personnellement, il avait vu ces engins exotiques et leurs pilotes, Grosh a répondu que non, mais qu'il connaissait des gens en qui il avait confiance, qui, eux, avaient eu accès à ces informations. Curieusement, assis juste derrière David Grosh, il y avait ses deux nouveaux meilleurs amis, Jeremy Corbell et George Knapp, ceux-là même qui ont fait pendant des années la promotion des élucubrations de Bob Lazar. Simple coïncidence. En mars 2024, le Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines, l'AARO pour son acronyme anglais, le nouvel organisme étatique mis en place par le gouvernement américain de la Défense pour enquêter sur les apparitions de phénomènes aériens non identifiés, a publié un rapport d'une quarantaine de pages. Ce rapport se voulait, et se veut toujours d'ailleurs, une réponse aux allégations de David Grosh et, par ricochet, à celle de Bob Lazar. Les enquêteurs de l'ARO n'ont trouvé aucune preuve que des engins extraterrestres aient jamais été récupérés par les militaires, et encore moins qu'il existait des programmes de rétro-ingénierie sur de tels engins. Évidemment, les Jeremy Corbell et consorts ont aussitôt crié au scandale, accusant l'ARO de n'être ni plus ni moins qu'un organisme de désinformation. Cela fait 80 ans que ces amateurs nous servent le même discours complotiste. À chaque fois qu'ils s'adressent aux médias, ils ne cessent de se présenter en victime et répètent qu'ils ont des preuves. Le problème, c'est qu'en 80 ans, ils n'ont toujours pas présenté une seule de ces preuves qu'ils nous promettent depuis des décennies. Il y a 30 ou 40 ans, à l'époque des téléphones à cadran, des appareils photo argentiques et des 45 tours qu'on achetait pour un dollar, l'hypothèse du complot était possible, improbable, mais possible. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, des médias numériques et où 7 milliards de caméras scrutent le monde 24 heures sur 24, est-ce encore possible de croire à cette cabale internationale? À moins que les ovnis ne s'écrasent qu'aux États-Unis, l'armée américaine pourrait peut-être dissimuler un crash survenu au fin fond d'un désert du Nouveau-Mexique. Mais comment pourrait-elle étouffer l'écrasement d'un ovni en France, en Angleterre, en Australie, au Burkina Faso? Comment? Si la dissimulation d'un secret de cette ampleur était possible, le président Clinton, par exemple, aurait-il laissé couler ses inconduites sexuelles? Il est difficile de garder un secret lorsqu'il y a plus de deux personnes impliquées dans la confidence. Est-il encore raisonnable d'imaginer l'étanchéité d'un secret qui perdurerait depuis des décennies? Un secret impliquant des dizaines, voire des centaines de personnes. Jeremy Corbell et ses amis vivent clairement dans un univers parallèle. Un univers devenu leur fonds de commerce. Comme le disait le forain P.T. Barnum, « Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Il n'y a pas de mauvaise publicité. » Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.